vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà tout.
Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture, société et aujourd'hui un peu économie. Alors rassurez-vous, je ne vais pas voler la vedette à Étienne et Laurine, les deux animateurs du podcast Splash, parce que dans ce 56e épisode, on parle chiffres, certes, mais surtout et grandement de football avec mon invité Pierre Rondeau. Cet homme aux multiples casquettes, économiste, professeur et chroniqueur sur RMC, parle longuement du PSG, club dont sa grand-mère, grande fan de foot, est une membre donatrice. Et puis, bien sûr, on a parlé économie avec notamment cette question des droits télé. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ça dans ce nouvel épisode de Banquette. Bonjour Pierre.
Salut.
Comment ça va ?
Alors, je suis très content d'être là. Ça, c'est la vérité. Je suis très content d'être là et
de
pouvoir discuter foot avec toi. La vérité, et je dois dire la vérité, c'est que je suis un tout petit peu malade.
Ouais, là, c'est, on est sur une série d'invités un peu malades, mais c'est la saison qui veut ça,
c'est
malheureusement.
C'est la saison, c'est la saison, c'est la température. Il n'y a plus de saison, pauvre ami. Il n'y a plus de saison, il fait froid, il fait chaud. C'est...
Ouais, je peux dire pour les auditeurs, parce que comme c'est de l'audio, tu as une écharpe autour du cou pour te protéger et c'est tout à fait normal.
J'ai extrêmement mal à la gorge.
Bon, je vais
ça picote.
J'essaie de pas trop te faire parler, mais un peu quand même, parce qu'on est là pour ça, pour discuter. Et évidemment, on est là pour parler d'économie dans le football, parce que tu es économiste, mais pas que. J'ai pas envie de trop perdre l'auditeur dès le début. On va rentrer dans les chiffres, on va commencer mollo, on va parler football en général, parce que je suppose que c'est ta grande passion. Ça te vient d'où justement cet amour du football ?
C'est la famille, hein, on va dire. Je pense que c'est la même réponse pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui aiment le football. C'est familial. C'est mon père et mon frère qui étaient passionnés de football. C'est ma grand-mère paternelle qui elle-même était passionnée de football.
Ah ouais.
J'ai encore le souvenir de ma grand-mère, moi petit, elle, dans la cuisine, à écouter les retransmissions de Jacques Vendroux sur France Info et écouter les résultats du Paris Saint-Germain. On a une famille de Parisiens.
D'accord.
Donc voilà, j'annonce qu'on supporte... depuis toujours le Paris Saint-Germain.
D'accord.
Ma grand-mère a fait partie des membres donateurs du PSG.
Ah oui.
En gros, en 70, quand il y avait eu l'appel sur RTL de la création d'un club de foot parisien, ma grand-mère a fait partie des membres donateurs. Pas des membres fondateurs. Hein, c'est membres donateurs. Elle a donné je ne sais pas combien d'argent et elle a eu sa carte de membre donateur du club. Donc on est depuis toujours dans la famille supporter du Paris Saint-Germain et en tout cas supporter de foot. Donc moi, depuis toujours... je suis fan de foot et c'est familial. J'ai suivi mon père, j'ai suivi mon frère, j'ai suivi ma grand-mère et je m'intéresse au foot et au ballon rond depuis très 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 longtemps.
T'as vraiment grandi dedans et c'est qui du coup qui était le plus grand supporter de foot et même pour l'occasion du Paris Saint-Germain ? Est-ce que c'est toi, ton père,
famille.
Ta grand-mère ? Ouais.
Qui... Alors ça va t'étonner, mais la plus grande supportrice du PSG ou de football dans la famille, c'est ma petite sœur.
Ah ouais ?
Ma petite sœur, c'est une ultra. Elle a tout. Elle a les écharpes, les maillots. Elle est folle. Quand il faut pas avoir un match avec elle. C'est une tarée. Elle est pas patiente. Elle est là. Elle va gueuler sur tout le monde. C'est une tarée. Et elle a suivi. Voilà. Je répète, comme c'est familial, comme toute la famille était dedans, dans ce moule du football, dans cette passion pour le football. Ma petite sœur, la petite dernière, elle a suivi le train. Elle a suivi le mouvement finalement. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, la plus ultra et la plus fada. Du Paris Saint-Germain et en tout cas du football. Elle suit tous les matchs, elle note en plus comme mes grands-mères le faisaient justement. Est-ce que c'est une tradition familiale chez les femmes? Elle note aussi les résultats sportifs du Paris Saint-Germain. Ce qui est génial, c'est comme ça, moi j'ai accès à une base de données monumentale. Si je lui demande, attends Marie, elle s'appelle Marie, Marie, il y a eu combien la 33e journée en 2005-2006? Boum, elle a le cahier, elle le sort.
Wow.
C'est mieux que Wikipédia.
Ah ouais, c'est
carrément. Mieux que Wikipédia.
c'est dans la
tous
famille
les résultats.
En plus.
Ouais. Et même, elle a les cartons jaunes. Mais c'est vraiment une tarée des stats, une tarée du PSG, une tarée du foot. C'est une fada.
Elle bosse pas pour Opta, ta sœur, t'es sûr?
Elle pourrait.
Elle devrait, d'ailleurs. Ouais.
Non, mais même pas en plus. Même pas. C'est juste la passion.
Et toi, t'es un peu plus modéré dans supporterisme?
Ouais. En fait, si tu veux, moi, j'ai été supporter, j'ai été fervent supporter, donc je précise, hein, du PSG, à la mauvaise période, si je puis dire, période 2000, année 2000. quand, on perdait 3-0 au Parc contre Montpellier et quand de la dernière journée, de la dernière minute de la dernière journée, on parvenait à se maintenir en Ligue 1 grâce à un but d'Amara Diané. Donc c'est ces périodes-là où vraiment c'était honteux de supporter le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai été ce supporter. Moi, au lycée, je venais avec le maillot du PSG quand on venait de perdre 4-0 contre Saint-Etienne et j'en étais fier. Je me disais, c'est pas grave, je m'en fous, je suis fier de supporter le PSG. Et en fait, si tu veux, ce que je trouve assez paradoxal, dans mon point de vue, dans mon positionnement, c'est qu'aujourd'hui, le fait que le PSG gagne tout, alors c'est très bien, tu vois, on gagne 5-0, 6-0, on domine allègrement le championnat et on fait bonne figure en Ligue des Champions. On a des super joueurs, des Mbappé, des Neymar, des Cavani, que j'adore, c'est génial. Mais en fait, ça m'ennuie. Ça m'ennuie et en fait, je prends plus plaisir, un peu un plaisir, je dirais, sadomaso à l'époque, de regarder un match du PSG et d'aimer supporter cette piteuse équipe. C'est le sentiment que j'en avais et que j'ai encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je prends plus plaisir à être aussi passionné et aussi fou que de supporter cette équipe qui gagne, quoi qu'il arrive, donc, où il n'y a plus de suspense. Donc là, voilà, je me dis qu'aujourd'hui, je suis content que le PSG gagne, mais j'ai plus m'intéressé à des équipes à l'étranger, j'ai plus m'intéressé au championnat anglais que je trouve passionnant, que je trouve beaucoup plus intense et compétitif et équitable par rapport à la Ligue 1, par exemple. Je vais plus m'intéresser à des championnats comme le championnat argentin avec Boca River, que je trouve assez fantastique. Mais voilà, la Ligue 1 et le PSG, de plus en plus, m'ennuient. Donc j'ai perdu cette ferveur, cette intensité, cet engouement du fait de l'émergence qatarienne et... Voilà, mais je reste malgré tout dans le sang, c'est ancré dans le sang, je reste parisien.
Mais j'imagine que quand les Qataris sont arrivés, ils ont mis une saison à gagner le titre. J'imagine que ce premier titre depuis 80... C'était quelle année déjà ?
96
94, je crois.
96, c'est Coupe d'Europe, et 94, c'est Champion de France.
Ouais, c'est ça, depuis 94, donc ce premier titre, j'imagine que... À ce moment-là, quand même, t'étais quand même très heureux. Ah, ça faisait longtemps.
Bien sûr.
Mais c'est après, là, c'est la répétition.
Même pour te dire, la première année, quand on fait deuxième contre Montpellier, là, j'étais vraiment énervé, je me rappelle, en me disant, putain, c'est pas normal quoi, dépenser des millions. On est pas capable, avec Ancelotti, de finir premier, de remporter le titre. On n'est pas capable de au moins gagner une coupe, hein, ce qui était assez dommageable. La deuxième année, quand on est champion de France, formidable, grande joueuse collective, grande commémoration. Alors, j'étais pas sur Trocadéro quand il y a eu justement cette célébration assez agitée. Mais non, j'étais extrêmement heureux, ça c'est indéniable. Tout comme quand on sort en Ligue des Champions contre le Barça à cause des buts à l'extérieur, parce qu'au final ça faisait égalité, alors ça faisait deux partout à domicile et un partout à l'extérieur. Donc match nul, mais on sort à cause des buts à l'extérieur. Même ça, j'avais eu ces frissons. Je me rappelle du but de Pastoret qui m'avait persuadé de pouvoir passer justement ce cap des quarts de finale et des demi-finales de Ligue des Champions. Donc oui, j'avais eu de la ferveur, j'avais eu de l'engouement, j'avais eu des frissons, j'avais eu de la passion. Mais voilà, depuis 5 ans, 6 ans, aujourd'hui, j'ai plus plaisir. Je suis content toujours de voir le PSG gagner. Je suis content de voir Cavani, Mbappé, Neymar bien performer. Mais c'est plus aussi intense qu'avant. Maintenant, voilà...
Même en Ligue des Champions, tu trouves que c'est moins intense? Il y a quand même toujours cette quête du Graal qui est l'objectif ultime du PSG maintenant.
La vérité, et ça va paraître absurde ce que je vais te dire, mais moi, ils me font marrer. Ils me font marrer avec à tout prix vouloir la remporter et dire cette saison, on va la remporter, on va la gagner, on met de l'argent sur la table. Voilà, 222 millions d'euros, 180 millions d'euros pour Mbappé, on y va, on négocie des contrats pour gonfler les budgets, on veut la remporter. Et on n'arrive pas à dépasser les stades des quarts de finale.
Est-ce que ce n'est pas aussi le propre d'un grand club d'être aussi ambitieux, de dire on veut gagner la meilleure coupe
mais
il
faut rester humble aussi.
Ouais.
Faut rester humble. Alors oui, effectivement, des clubs comme le Real ou d'autres annoncent la couleur qu'ils veulent remporter la Ligue des Champions, mais parce qu'ils l'ont déjà remporté 13 fois, le Real. Donc effectivement, ils peuvent le faire. Nous, il faut rester humble. On est, entre guillemets, ce qu'on appelle des nouveaux riches. Donc vraiment, pour te sortir et pour te faire une métaphore, on ne supporte pas la caricature de ces nouveaux riches qui en font 6 fois trop, qui arrivent en soirée, qui en font 10 fois trop avec leur, leurs vêtements de marque hors de prix, qui n'ont pas les codes de l'humilité, j'irais bourgeoise, à rester humble et propre sur soi, qui vont faire des tonnes et des caisses. C'est un peu ce qu'est le PSG aujourd'hui. C'est un peu ce qu'est le PSG aujourd'hui, qui en fait des tonnes, qui en fait des caisses, parce qu'il veut justement montrer qu'il existe, montrer qu'il, qu'il est ambitieux et qu'il veut remporter cette compétition. Ça serait très bien qu'il la remporte. Et je serais le premier à la célébrer. Je serais le premier à aller sur les champs ou ailleurs pour célébrer la victoire du PSG en Coupe d'Europe. Et toute la France, je pense, sera contente pour une fois, si j'en suis persuadé, même les Marseillais.
Ah, moi, je suis Marseillais.
Mais parce que les Marseillais, ils pourront continuer à dire à jamais les premiers. Et ça, personne ne pourra leur retirer. Mais que la France, enfin, remporte une deuxième Coupe d'Europe, une deuxième C1, voilà, on pourra dire c'est bon. Mmh. Voilà, c'est comme le tennis et Roland-Garros, uniquement Yannick Noah, il n'y en a pas d'autres. Là, en Coupe d'Europe, en football, uniquement Marseille, il n'y en a pas d'autres. Allez, on pourrait au moins péter cette espèce de barrière psychologique. Et enfin, on a un club français, un deuxième club français qui remporte une Coupe d'Europe. Donc je pense que tous les Français seront contents. Même notre président Emmanuel Macron, supporter du...
Mais lui, il n'a pas trop le choix en même temps.
Bah, c'est un supporter marseillais, donc ouais, il est obligé.
Président de tous les Français, donc bon.
Bah oui, mais...
J'imagine qu'il ne va pas snob. S'il fait ça, comme c'est...
Mais
c'est
il va le faire. Bon. Attends, franchement, si, sans déconner, si le PSG gagne, on verra. Je ne vais pas dire une chaleur ou compagnie, on verra, j'en sais rien. Mais si le PSG, sur la mandature de Macron, remporte la Ligue des Champions, mais il sera obligé de faire un tweet.
Bah oui.
Il sera obligé de faire je célèbre la victoire du Paris Saint-Germain et des hommes de Tourelle, je ne sais pas de qui au moment. mais voilà, alors on dira, mais non, c'est un supporter marseillais, il n'a pas le droit de faire ça, s'il ne respecte pas ses couleurs. C'est le président.
C'est le président, c'est au-delà, la fonction est au-delà de...
Ouais, mais bon, après, il pose avec le maillot. Et au moins Hollande, si on fait un peu de politique, au moins Hollande, il se...
Bah, Hollande, il est pour Rouen. Donc
voilà. Donc c'est facile. Ouais. Sarkozy, parisien, Macron, marseillais, Hollande, de Rouen.
Lui, au moins, ça va, ça passe. Mais tu penses que ça pourrait arriver, tu parlais d'humilité du PSG. Cette humilité des nouveaux riches qui ne l'ont pas. Moi, ça me fait penser à Chelsea, qui, quand Abramovich est arrivé, très vite, c'était l'objectif, c'était la Ligue des Champions. Ouais. Mais eux, ils ont buté très souvent. Et l'année où ils étaient vraiment moins bien, où en gros, ils n'avaient pas trop d'espoir, bah, c'est là où ils ont réussi à la gagner.
Sur un coup du destin, en plus.
C'est ça. Ouais.
Sur un coup du destin. En Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'en football, alors, si je reviens dans mon... dans ma zone de confort, si je peux dire, sur l'économie. En football, on estime qu'il y a une corrélation très importante entre puissance économique, dépenses économiques, investissement économique et performance sportive. En moyenne, autour de 80%. Plus tu dépenses économiquement en transfert, en salaire, en dépenses structurelles, dépenses conjoncturelles, plus tu as des chances de performer sportivement. Donc on estime que voilà, si tu dépenses beaucoup d'argent, tu auras une chance de remporter des compétitions. À la seule différence qu'en Ligue des Champions, dès que tu dépasses le stade des quarts de finale, ça devient véritablement une compétition à armes égales entre tous les clubs. Et là, c'est le destin qui joue. C'est pas l'argent, c'est pas les investissements, c'est le destin. Et à partir de là, comme tu l'as dit, Chelsea, qui au moment où l'équipe tournait très bien, ne parvenait pas à remporter des compétitions. On se rappelle par exemple de ce match contre le Barça.
En 2009, ouais.
Voilà, avec là un arbitre assez... Un arbitrage...
It's a fucking disgrace, comme voilà, dit Drogba, ouais.
Voilà, un arbitrage assez douteux. Je vais m'arrêter là-dessus, mais quand même, on peut se souvenir qu'il y avait des faits de jeu qui auraient pu montrer que le Barça aurait bénéficié, aurait au conditionnel, de quelques grâces de l'arbitre, au même titre que la fameuse remontada. Fermons cette parenthèse. Fermons cette parenthèse. Et voilà, ça joue sur le hasard, sur le coup du destin. Pour le PSG, finalement, c'est pareil. Déjà, un premier élément, si on mise que sur l'argent, Chelsea, à la différence du PSG, c'est que Chelsea n'avait pas le fair play financier. Donc Chelsea a pu dépenser sans compter. Paris a été bloqué par ce fair play financier. Donc il avait dû ralentir son développement. Et ensuite, si tu mets de côté cet aspect économique, avec fair play financier, avec équité sportive, avec tous ces éléments-là, tu prends uniquement le côté sport. Dès les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est le destin. Mmh. C'est le hasard, c'est l'aléa. Bah, c'est la remontada barcelonaise. Qui aurait pu parier une victoire 6-1 défaites contre Chelsea alors que tu avais mené 3-1 au Parc et que tu perds 2-0 à Chelsea avec des ratés monumentaux de Cavani où tu dis mais merde, comment il peut rater ce genre de choses, c'est pas possible, le mec il est à 150 buts au PSG et il rate des choses inratables. C'est franchement à ce moment là c'était niveau Mitroglou, hein. si je peux me permettre.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup Cavani, donc moi, mais je te l'accorde. Je te l'accorde.
Ouais, ouais. Ça fait plaisir, en fait.
Non, pas
Boire
du tout.
Pour comparer Mitroglou à Cavani, ok.
Ok, on va juste garder Cavani, Mitroglou pareil, mais on va pas rentrer dans le détail de la comparaison. Ouais.
Mais
ouais,
ce que je veux dire, voilà, c'est au niveau de l'humilité, au niveau en tout cas du challenge et au niveau de l'ambition. Premier élément, afficher son ambition dès le départ en disant « Je veux remporter la Coupe d'Europe, nous sommes le Qatar, nous voulons briller chez l'international, nous venons dans un but de soft power, de diplomatie, de réputation, et il faut remporter la compétition. » Déjà, en mettant en avant le fait assez, je dirais, prétentieux, que la Ligue 1 n'est pas suffisamment cotée pour se dire que remporter Ligue 1, c'est bien, c'est pas assez. Ça, c'est vrai d'une certaine manière. Mais c'est quelque peu dommageable sur la manière de le dire. Et ensuite, deuxième élément, je vais faire des plans, j'en mets trois. Deuxième élément.
On sent le prof. Hein.
Ouais. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Après, je ferai une conclusion. Mais si tu veux, deuxième plan sur l'aspect économique, ils ont été contraints par le fair play financier. Donc, ils n'ont pas pu se développer aussi rapidement que Chelsea. Moi, je me souviens, par exemple, qu'en 2011, quand ils arrivent au PSG, les Qataris, le conseiller spécial du prince annonce qu'ils ont l'ambition d'acheter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Annonce qu'ils veulent faire comme duo d'attaque au PSG, Messi-Ronaldo. Et qu'ils en ont les moyens. Parce qu'en fonds propres, le Qatar, c'est 200 milliards de dollars. 200 milliards.
Ok.
Donc ils ont les moyens. Sauf qu'il y a le fair play financier qui interdit de dépenser plus que le club ne gagne. Et le PSG n'est pas le Real, le Barça, donc ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc il est contraint dans son développement. Deuxième élément. Troisième élément, vraiment une thèse, antithèse, synthèse, c'est que malgré tout ça, malgré les investissements colossaux, à partir des quarts de finale, c'est le sportif qui compte, c'est l'aléa, c'est la chance, le coup du destin. C'est remporter des matchs grâce à des faits de jeu. Perdre des matchs à cause de faits de jeu, à cause de l'arbitre, à cause d'une meute de terre qui est mal placée, d'un ballon qui rebondit, qui fait poteau rentrant ou poteau sortant, à cause d'un joueur qui se blesse à la troisième minute. Parce que fatigue musculaire, à cause d'un joueur qui prend un carton rouge, à cause de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui provoquent finalement ce qu'on appelle et ce qu'on adore, c'est pour ça qu'on aime le football, la glorieuse incertitude. Le football, contrairement au basket, contrairement au tennis, contrairement au volley, contrairement au hand, il y a très peu de buts. Il y en a 1, 2, 3 par match. C'est très vrai. Très peu. Mmh. Donc finalement, tu peux gagner un match. Prends Chelsea, par exemple. Chelsea, champion d'Europe. Alors, l'année, je n'ai plus en tête.
C'est 2012.
2012, contre le Bayern Munich à Munich. Je crois qu'il y a eu, il faudra vérifier les stats, mais de mémoire, je crois qu'il y a eu 29 tirs munichois contre 2 pour les londoniens. 29 tirs à 2. Qui gagne, c'est Chelsea.
Au tir au but, ouais.
Au tir au but, en plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de mettre les meilleurs investissements sportifs sur la table, les meilleurs joueurs possibles et dominer allègrement le terrain. Le football, on l'aime tant parce que, en théorie, n'importe qui peut battre n'importe qui. C'est de l'aléa. Tu peux gagner un match en étant archi dominé et marquer sur un contre, sur un fait de jeu, sur un aléa, et remporter la rencontre et remporter une Coupe d'Europe. Donc, le PSG devrait aussi miser là-dessus. De dire que oui, ok, soit on dépense des millions d'euros pour les joueurs, pour Neymar et compagnie, mais on peut aussi se dire que, je vais encore faire des parenthèses, mais au niveau de l'arbitrage par exemple, je vais prendre Marseille,
okay.
L'époque de Bernard Tapie.
Tapie, ça y est, on commence là.
Non, mais en disant du bien, attention, okay, ouais. Tapie, au même titre que Aulas, étaient des très bons dirigeants. Sportivement, on met de côté le domaine juridique, sportivement, Tapie, on ne peut pas nier l'évidence, il a été champion d'Europe. C'est le premier dirigeant français à être champion d'Europe. On ne peut pas nier l'évidence. Et il l'a dit, donc il gagne la Coupe d'Europe en 92.
93.
93, donc ouais. C'est 92 qui perd la finale contre Belgrade.
C'est en 91. Et justement, ça me fait penser hein, dans un livre de Daniel Cohn-Bendit, qui est un grand fan de foot. Il racontait qu'il avait rencontré Bernard Tapie après cette finale-là.
Ouais.
Et Tapie lui avait dit... non, je crois que c'était après la main de Vata, je crois, en 90. Il dit... J'ai compris comment on gagne une Coupe d'Europe.
Exactement. Et il dit que c'est grâce à l'arbitrage.
Ouais.
Et il va tout mettre en œuvre. Alors, est-ce que c'est du lobbying, c'est de la corruption, c'est de la tractation, c'est la négociation, mais il va aussi jouer son rôle de dirigeant pour essayer d'avoir avec lui une mansuétude arbitrale. Chose que peut-être n'a pas à l'heure actuelle le Paris Saint-Germain, quand on voit comment il arbitre en tout cas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la faute de l'arbitrage, attention, je ne suis pas aussi hypocrite que ça en disant qu'on perd parce qu'on est mal arbitré. Mais dans le foot, il y a des faits de jeu. Et Marseille l'avait très bien compris. Et Marseille, deux ans plus tard, remporte la Coupe d'Europe. C'était pas à cause de l'arbitrage. C'était pas grâce à l'arbitrage. Bien entendu que c'est grâce aux joueurs. Bien entendu que 99% d'une victoire est expliquée par les joueurs, par le foot, par le terrain. J'ai repris une phrase de Leonardo, à l'époque où il était directeur sportif du PSG. Il venait d'arriver, alors je crois que de mémoire, c'est... Il avait été invité d'une émission connue, le CFC, sur Canal. Mmh. Il expliquait que lui, son objectif, c'est de faire en sorte que d'améliorer les points, ce qu'il appelle les points marginaux, les gains marginaux. Tout le 1, 2, 3% qui permet de gagner des matchs. Par exemple.
Et qui fait aussi la différence entre un grand club et un club très bon, entre guillemets.
Exactement, ouais. Entre un club de haute qualité.
C'est ça.
Bah, je ne sais pas, Lyon, Marseille, des clubs qui sont bons, qui ne sont pas considérés comme les clubs de tocard, qui sont bons, mais qui ne sont pas des clubs de top niveau. Et ces gains marginaux, voilà, ce 1%, ce 2%, ce 3%, devaient ou devraient permettre aux clubs, notamment là pour lequel Leonardo du PSG, de remporter des rencontres, et il l'avait annoncé, de remporter cette fameuse Coupe d'Europe. C'est là-dessus qu'il faut miser. Et moi, c'est pour ça que cette vision, cet état d'esprit, moi, m'intéresse et je m'associe à cette vision-là. Pas la vision... gabegique, je dirais, de Nasser El Khelaifi de dépenser sans compter, ouais. En tout cas de dépenser en disant voilà Neymar, Mbappé. Moi, la vision qu'avait Leonardo, et je pense que Leonardo avait été un très bon directeur sportif, c'est vraiment de miser sur l'amélioration de ses gains marginaux. Chose que, par exemple, pour citer un exemple, ce que fait très bien à l'heure actuelle Liverpool. Liverpool avec Klopp ont embauché, pour donner les détails, des entraîneurs spécifiques pour des faits de jeu particuliers. Ils ont carrément embauché un entraîneur de touche.
C'est
un entraîneur de touche. Ils ont un gars qui est chargé de les entraîner sur les touches.
Si, je crois que j'avais vu une news passer. Un mec qui était dans un autre club qui était spécialiste des longues touches. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr, mais...
Bah, en gros, et c'est vrai que ouais. C'est logique. Mmh. Si tu es capable de faire une touche qui devienne un centre ou un corner, bah, tu démultiplies des possibilités de marquer.
Ouais, grave.
Donc, ils sont entraînés aux touches et ils ont vraiment, dans ce domaine-là, il a vraiment fait un truc qui me passionne en termes de management. C'est des entraîneurs adjoints, un staff technique spécifique à des actions particulières. Entraîneurs de touches, mais après, il va y avoir des entraîneurs de coups de pied arrêtés pour des cas particuliers, aspect défensif, aspect offensif. Et il va vraiment miser sur l'amélioration marginale et non pas sur la bonification via un joueur, via une équipe, via un collectif, mais sur l'amélioration marginale. Et c'est là-dessus, je pense, que le PSG devrait miser.
Mais moi, je pense que effectivement, enfin, tu parlais de Leonardo, son départ a été un très grand mal pour le club. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait cette culture grand club. Ouais. Il est passé par le Milan AC. Il a aussi entraîné. Il sait comment ça se passe. Il sait comment gagner. Il avait cette expérience-là. Et je pense qu'avec Ancelotti, il formait un bon ticket, un bon duo.
Bien sûr.
Plus, c'est Ancelotti qui le raconte dans un livre, je crois, de management. Il raconte que quand Ibra est arrivé en plus, ils ont dit, enfin, les deux, et je pense avec Leonardo aussi, ils se sont dit bon, on a un club qui peut devenir quelque chose de très grand, mais il manque encore ces petits détails, que ce soit le nutritionniste, exactement, les entraînements. Les préparateurs, ils ont tout fait en sorte pour que ce petit 1% que tu cites, bah, ça permette au PSG de devenir un très grand club.
Justement, ouais. Dans ce même ordre d'idée, quand tu dis voilà, c'était ces petites choses qui permettraient que le PSG devienne un grand club, je pense notamment à Ibrahimovic, qui s'était plaint qu'au PSG, on pourrait dire que c'était quand même une volonté de, enfin un truc de riche, mais il n'y avait pas au PSG des gens chargés de nettoyer les chaussures. Donc au PSG, avant Ibrahimovic et avant les Qataris, avant Leonardo, avant Ancelotti, les joueurs devaient nettoyer leurs chaussures eux-mêmes.
Et ils portaient aussi leurs bagages.
Et ils portaient leurs bagages, ouais. Ils amenaient les caches sur le terrain d'entraînement. C'était eux qui faisaient le travail que n'importe quel joueur de foot amateur fait d'habitude. Et lui, ça l'avait choqué, surpris Ibrahimovic en disant « Mais attends, au Milan AC, on a des gens qui sont chargés de faire ça. » De la même manière, il y avait aussi des ramasseurs de balles à l'entraînement. Des ramasseurs de balles à l'entraînement, ce qu'il n'y avait pas avant. À l'entraînement, avant, on avait des ballons sur le terrain et on les prenait, on repartait, on les prenait, on repartait. Maintenant, il y a des ramasseurs de balles à l'entraînement, des gens qui sont payés par le PSG pour nettoyer les chaussures des joueurs. Alors, on va me dire que c'est rien. C'est rien. Finalement, c'est rien. C'est pas ça qui va faire gagner une Ligue des Champions. Mais avoir ce petit plus, bah, tu pourrais dire que l'accumulation de ces petites choses, comme tu l'as dit, devrait permettre de booster ce 1% qui fera au final la différence entre ce qui est une grande équipe et ce qui est une équipe de bon niveau. Et voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Ancelotti, Leonardo, Ibrahimovic, à mon sens, ont apporté au PSG cette forme de professionnalisation d'élite qui aurait dû, si ça avait duré, notamment avec Leonardo et Ancelotti, qui aurait dû perdurer. Et je pense, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que si Leonardo était resté, je ne dis pas que le PSG aurait été champion d'Europe, mais aurait fait, à mon sens, bien mieux, bonne figure sur la compétition que cela a été avec des gens comme Kluivert ou
Olivier. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu as parlé dans ton argumentaire à un moment d'économie, donc ça permet de faire un peu la transition.
Allez, on y va.
Allez, c'est parti. Mais juste avant, déjà, comment tu t'es intéressé à ce domaine-là? Tu l'as dit, tu avais un peu le foot dans le sang, c'était familial. Et l'économie, en fait, c'est quoi qui te plaît là-dedans? C'est les chiffres? Est-ce que c'est le rapport que ça a sur l'histoire, l'influence que ça a? C'est
en fait,
quoi ton rapport
en fait, avec? Alors, il y a plusieurs choses. Je ne peux pas encore faire des plans, mais il y a plusieurs choses qui m'ont amené à me spécialiser, si je puis dire, sur l'économie du sport. Déjà, comme tu l'as dit, c'est dans le sang, c'est familial. On est des passionnés de foot dans la famille. Donc forcément, le foot, je m'y intéressais. Deuxième élément, c'est que, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de foot qui sont dans cette école-là. Moi, quand je discute avec des gens, avec des fans de foot, il y a souvent deux écoles. Deux écoles, c'est l'école des joueurs de FIFA, ou de PES, et l'école des joueurs de Football Manager.
Ah, moi, je suis... Non, moi, j'avoue que j'ai commencé avec FIFA.
Ouais.
Mais je crois que mon premier jeu de foot sur lequel j'ai vraiment accroché, c'était Téléfoot Manager.
Ouais,
99. Donc voilà, c'était jeu de manager. Moi, c'est plus ma drogue que FIFA au PES.
D'accord.
Quoi. Voilà, ouais.
C'est chronophage à outrance.
Complètement. Ouais.
C'est un jeu, mais c'est addictif, mais c'est pire que PES ou FIFA. Moi, ce jeu, voilà, véritablement, les jeux de management sportif, moi, j'étais pris dedans très, très, très jeune. Encore une fois, à travers mon grand frère, qui jouait beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, t'as cité Téléfoot Management. Moi, je rappelle qu'il y avait Giroud Management aussi.
Oui, aussi, ouais. Sur PlayStation, je crois, ouais.
Moi, c'est sur PC.
Sur PC, ouais.
Sur PC, il y avait aussi le jeu de la LFP.
LFP Management. Oui, LFP Manager, ouais.
Qui était les premiers à faire des matchs en 3D.
C'est vrai.
Donc, ça devait être dégueulasse. Hein, mais on avait les yeux des jeunes des années 90. Mais c'était des matchs en 3D, alors que l'entraîneur, Football Manager... Moi, je suis resté sur les matchs avec des petits jetons.
Avec les points, ouais.
Parce que je sais que maintenant, les éditions récentes, ils sont des matchs en 3D.
Mais tu peux toujours revenir
fait, moi, voilà, j'ai arrêté de jouer.
À cause
je
de ça.
Je sais que si j'y rejoue, mais j'ai plus de vie sociale.
Ouais, c'est vrai que moi, des fois, je me fais des cures. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais quand je re-rentre dedans, je peux passer genre des mois et je peux jouer jusqu'à 2h du matin.
Ouais,
vraiment.
Mais déjà arrivé, ma dernière version, c'est la 2006-2007, donc ça date. Et il m'était arrivé, je me rappelle, sur cette version. De lancer le jeu, j'ai une horloge au-dessus de mon bureau. Je lance le jeu, il devait être 3h de l'après-midi. Je joue, j'ouvre la tête, il est 21h.
C'est ça.
Mais c'est un truc. Mais pas soif, pas envie d'aller aux toilettes, non. Pas faim. Tu joues, t'es à fond dedans.
Ouais.
C'est voilà. Donc pour te dire, voilà, je fan de foot et aussi fan de Football Manager. Et forcément, quand t'es fan de ce genre de jeu de management, t'as aussi tout l'aspect quand je parle managérial. T'as aussi un aspect économique.
C'est vrai,
négociation
des contrats,
club, des contrats,
ouais.
Des contrats, du budget. Voilà, est-ce que tu vas vouloir militer pour la construction d'un stade qui va te rapporter tant d'argent, pour la rénovation du centre de formation, du centre d'entraînement. Donc tout l'aspect économique.
Et toi, t'étais ce genre de manager, tu investissais dans. Moi, j'ai jamais fait ça, jamais le stade. Alors, ça m'intéressait
quoi,
pas
je
trop.
Je vais te donner une petite anecdote. Et je suis sûr que si, encore une fois, je vais la citer, elle va adorer, elle va être là. Ouais, j'ai encore cité ma sœur. Mais est-ce que tu sais que dans Football Manager il y a des challenges qui existent et il y a des espèces de... Comment dirais-je? J'avais vu ça sur Internet. Il y a des... pas des challenges, mais des espèces d'étoiles à obtenir. Des trucs qui sont genre extrêmement rares à obtenir. Des genres... avoir un stade à son nom.
Mais non.
Ouais.
Ça existe, ça?
Avoir un stade à son nom. Je crois que t'as une chance sur 100 000, un truc comme ça. Mais c'est un truc... à vérifier les stats, hein. Peut-être que j'ai une connerie, mais ça fait partie des étoiles.
Là, tu me dis ça, ce soir, après, je rentre, je joue direct.
Mais vérifie, tu pourras vérifier. Et on a encore la partie pour bien te prouver que c'est vrai.
Ouais.
donc, c'était pas la version 2006-2007. Elle jouait, donc ma sœur, jouait à la version 2002-2003. Et elle jouait pareil, de famille, on jouait tous à ça. Et elle a eu. Et donc, comme c'était une fille, il n'y a pas d'entraîneur fille à l'époque, je crois que tu peux maintenant, dans la version récente. Elle s'était appelée Marc Le Pavec. Elle entraînait Liverpool.
Okay.
Elle supporte aussi Liverpool, ma sœur. Elle entraînait Liverpool et elle a obtenu en 2020-2021 le stade Marc Le Pavec.
Incroyable.
Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je te le dis. Mais voilà, on y joue et on était dans ce délire construction des stades, des centres d'entraînement, des centres de formation et d'investir sur le structurel. Donc, pour revenir à ta question initiale, au-delà de cette anecdote assez monumentale d'avoir un stade à son nom dans Football Manager, c'était l'idée que, voilà, très jeune, même pas vraiment, j'étais au collège, hein, même pas en mode lycéen ES, c'est au collège. L'économie, pour moi, c'était rien, je ne savais pas ce que c'était. J'aimais ça, j'aimais le management, j'aimais l'à côté du sportif. À la rigueur, je ne sais pas si tu faisais pareil quand tu jouais, mais matchs de foot, je ne les regardais même pas.
C'est comme...
Je les regardais, mais mis à part les matchs en jeu, mais autrement, je ne les regardais pas. Il m'arrivait même parfois de partir en vacances. Tu sais, tu peux partir en vacances une journée.
Ah ouais,
tu le joues. Il m'arrivait parfois, vraiment, le côté sportif, je mettais de côté. Moi, je voulais tout le côté extra-sportif.
Okay.
La gestion avec le président, avec les joueurs, vraiment le côté économique. Donc, très jeune, je me suis intéressé à ça. Ensuite, voilà, dans la famille, mon père, il a fait des études d'économie. Moi, arrivé au lycée, j'étais bon en maths, j'étais bon en histoire. Donc, je voulais faire Sciences Po. Et donc, pour faire Sciences Po, je me suis dit, il faut faire ES. Donc, j'ai fait ES. J'ai fait de l'économie. Je suis allé en prépa après, donc je n'ai pas eu Sciences Po, mais je suis allé en prépa éco. J'ai continué sur la trajectoire économique. Hein, je suis allé à Normale Sup après, toujours en économie, mais sans jamais faire d'économie du sport. Moi, je faisais de l'économie pure et dure.
Okay.
J'ai passé un master de philosophie économique. J'ai passé un autre master ensuite en histoire de la pensée économique. Vraiment les trucs, ensuite ma thèse que j'avais commencé, j'ai pas terminé ma thèse, je précise, à chaque fois on me dit ouais, tout économiste, je vais reprendre un peu c'est toujours un peu le truc, on pourra en parler après si tu veux, mais c'est une espèce de, comment dirais-je, de conflit que je peux avoir avec le milieu universitaire. Et là je cite Raphaël Antoven, le philosophe
entre de grands, très très grands guillemets, hein.
Ouais. Mais alors non, mais justement il a raison, lui, parce que lui il dit: je ne suis pas philosophe, je n'ai pas de thèse en philosophie, je suis professeur de philosophie. Et j'ai envie de dire comme lui, techniquement, je n'ai pas terminé ma thèse, donc je ne suis pas économiste. Donc, moi, je préfère me présenter comme professeur d'économie. Après, qu'est-ce qui définit un philosophe ou un économiste ? Le fait que je fasse aussi de la recherche à travers la Fondation Jaurès en économie du sport peut faire de moi un économiste. Mais il y a beaucoup d'universitaires, quelques-uns, 2-3, donc je pourrais citer les noms ou ne pas leur faire de publicité, qui, notamment un, qui est extrêmement méchant et qui va en permanence. D'ailleurs, pour te dire à quel point j'ai bloqué sur Twitter, pour te dire à quel point cette personne, je ne sais pas si c'est la jalousie ou de la haine, mais avait un profond mépris pour moi.
Il est vrai, il y a même des guerres d'ego chez les économistes.
Mais chez les universitaires, mec est universitaire, le mec il est maître de conférence dans une fac de province, en STAPS, et maintenant depuis j'ai bloqué, donc je ne sais pas ce qu'il fait, mais pendant très longtemps, il lui est arrivé de manière assez soutenue, on va dire mensuelle, de balancer des tweets en disant Pierre Rondeau, la science du foot, un expert autoproclamé qui ne brasse que du vent. C'est une phrase qu'il répétait souvent. Qui n'est pas économiste parce qu'il n'a pas de thèse ni de HDR. Carrément, c'est au-dessus, tu vois, c'est la thèse plus l'habilitation à diriger des recherches. L'HDR, c'est le truc au-dessus. C'est carrément le Graal du Graal. C'est genre, il faut avoir 60 ans et 30 ans d'expérience à la fac. Mais bref. Encore une parenthèse, je referme la parenthèse, mais voilà, j'ai fait des études d'économie, mais jamais d'économie du sport. Je fais Normale Sup, je deviens prof de SES en 2012, toujours sans jamais avoir vraiment fait, je le précise bien, d'économie du sport à l'université. Je deviens prof de SES en 2012, donc de sciences économiques et sociales, et dans un lycée qui est à côté d'ici, justement. On est à Pigalle, je précise, pour les auditeurs. J'étais à Edgar Quinet. Le lycée de Garquinet, je ne sais pas si tu vois où il est.
Non, je vois pas trop.
Rue des Martyrs.
Ok.
À côté d'ici, donc métro Pigalle, qui était, enfin je ne sais pas si aujourd'hui il l'est encore, mais qui était à mon époque un très 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 mauvais lycée. Qui faisait, moi quand je suis arrivé, l'année avant mon arrivée, il faisait 40% de résultats au bac.
Ah oui, quand même.
Quand j'ai été affilié et envoyé à ce lycée. Je me suis renseigné sur Internet et quand tu tapes lycée de Garquinet, enfin à mon époque, en 2012, quand tu tapais lycée de Garquinet, sur le fil d'actualité Google, tu avais un lycéen se fait arrêter en possession d'un sabre japonais.
Ok, ambiance.
Voilà, je me dis waouh, ça va être chaud. Et en plus, putain, là, je pourrais critiquer l'éducation nationale. Les jeunes profs inexpérimentés, ils les envoient dans des lycées assez catastrophiques. Voilà, les profs expérimentés, c'est dans Henri IV et le Grand, et les petits nouveaux, c'est dans les lycées assez difficiles. Déjà, donc voilà, je me dis ça va être chaud. Et je commence, et effectivement, c'est chaud. Alors si, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter aujourd'hui, qui se rappellent de Pierre Rondeau, professeur de SES au lycée de Garquinet, que je les ai adorés, hein, mes élèves, je les ai adorés. Mais c'était vraiment difficile.
Ouais.
C'était vraiment difficile. Des turbulents, perturbateurs, voilà, je passe les détails, mais par exemple, que Nicolas Sarkozy, quand il était président, ait imposé une réforme de l'enseignement qui a rendu obligatoire l'enseignement des SES en seconde, obligatoire, mais enseignement de découverte, donc coefficient zéro. Donc mets-toi à la place d'un lycéen de seconde qui a l'obligation de faire des cours de SES, mais qui n'est pas noté.
Je t'en fous. Oh, ouais, je vois.
Voilà, donc imagine-toi ce que c'était en seconde. Donc, c'est vachement difficile. Et je me dis, bah putain, il y a une solution, c'est que je kiffe le foot, ils kiffent le foot, je vais essayer de leur rendre intéressant l'économie, leur rendre intelligible l'économie par le prisme du football. Et donc, finalement, j'ai pas fait de l'économie du sport ou du football en mode j'étudie le football sous l'aspect économique. C'est j'ai fait l'apprentissage de l'économie via le prisme footballistique. J'ai, par exemple, je leur ai expliqué la théorie keynésienne, la théorie libérale, la théorie marxiste via des exemples footballistiques.
Et ça marchait ?
Et ça les intéressait. Comprendre le libéralisme, le laisser-faire, la somme des intérêts particuliers fait l'intérêt collectif, la théorie des jeux, via l'exemple footballistique, ça leur parle. Ça leur parle directement, c'est du foot. Leur parler de Keynes et de la relance, de l'interventionnisme public, via l'exemple footballistique avec le dirigeant qui va intervenir, qui va faire des investissements de relance en cas de problématique, des politiques contracycliques, procycliques. Ça leur parle. Parce qu'on est un lycéen de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui doit apprendre l'économie, mais qui ne sait même pas à quoi ça pourra lui servir plus tard ou à quoi ça lui sert aujourd'hui, forcément, ça ne l'intéresse pas. Et là, clairement, il dit « Mais waouh, en fait, c'est cool et c'est intéressant. » Donc, en fait, au même moment, si tu veux, au même moment, en 2012, hein, il y a l'apprentissage pédagogique de l'économie du sport. Je mets à enseigner les SES via le prisme du football. Et ça les intéresse. Et je suis super content. Et en même temps, été 2012... Non, pardon, c'est été 2013, parce que c'est la saison, l'année scolaire 2012-2013. Et été 2013, je commence, via un contact que j'avais, c'est Pierre Maturana de SoFoot,
ouais.
Je commence un blog à SoFoot. Et blog qui s'appelle, d'où mon surnom aujourd'hui, La Science du foot.
Sur Twitter, c'est ton
exactement,
ad, c'est ça.
La Science du foot. C'est un surnom qui venait de Pierre Maturana. Hein. Encore une parenthèse, mais j'ai encore en parlé. Ce fameux universitaire qui me critique. Le mec, il a osé dire que je m'autoproclame scientifique parce que je m'appelle La Science du foot. Bref, voilà. La Science du foot, c'est un surnom qui émane de cette collaboration avec SoFoot de 2013 avec Pierre Maturana. Et j'ouvre ce fameux blog et je crois qu'il existe encore, mais ça fait des années que je n'ai pas écrit. Et je commence à écrire ces articles de vulgarisation scientifique du football. Et je prends un plaisir pas possible à écrire. J'adore ça. Je me rends compte que l'écriture, c'est un truc qui me passionne. Donc, je me mets à écrire abondamment. À l'époque, je sortais un article par semaine. Je sentais que ça prenait, en tout cas, je sentais que ça pouvait intéresser des gens. Vraiment, des articles de vulgarisation scientifique. Hein. Voilà, l'approche économique de l'arbitre. Des pénalties, des arrêts de jeu, même aussi. Quand je m'amusais aussi à rédiger des articles de vulgarisation de mes cours de SES en parlant de football. Donc ça intéressait aussi des lecteurs. Donc en même temps, en fait, j'ai à la fois l'aspect pédagogique de l'enseignement et l'aspect, je dirais, producteur, en tout cas rédactionnel, en écrivant des articles pour SoFoot d'économie du foot. Donc, en même temps, voilà, je me rends compte qu'en fait, j'adore ça.
Ouais.
J'adore ça. Mes cours de SES appliqués au foot étaient tous constitués. J'ai un pote... En fait, le truc, c'est qu'en même temps, je suis aussi chargé de TD à la fac. À Paris 1. Et ça, depuis toujours, je suis chargé de TD à la fac. À Paris 1. Et à Paris 1, j'ai un collègue qui vient d'écrire un bouquin, qui venait d'écrire un bouquin à l'époque en 2012, chez Brial. Et je lui parle de ce que je fais, sans vouloir moi aussi pouvoir publier chez eux. Mais comme ça, à travers une discussion, je lui explique moi, est-ce que je fais des cours en parlant de football. Et il dit, mais c'est vachement intéressant, je te donne le contact chez Brial, contacte-les, il serait super intéressé. Je me rappelle très bien de ce jour. Genre, j'envoie un mail, comme ça, mais je te jure, dans les 5 minutes, ils me répondent. Ça arrivait tout de suite.
Tu leur avais dit quoi? Tu leur avais dit, voilà, je suis prof d'éco, j'ai un blog sur SoFoot, je parle de ça, et bingo, ça leur a tapé.
Et ils ont dit, mais c'est vachement intéressant.
Ouais.
C'est vachement intéressant, allez-y. Et donc, ouais, surpris en fait par le truc, je me dis, c'est cool. Je leur envoie les premières épreuves, comme tout avait déjà été fait, en fait. Tous mes cours étaient déjà faits. Je leur envoie les premières épreuves, je leur envoie un manuscrit assez rapidement, j'étais assez rapide pour le faire. Et ben, il est validé. Il est publié et boum, Coup Franc sort. Le premier bouquin. Coup Franc, alors COUT, le jeu de mots qui a été trouvé par l'éditeur. Les sciences économiques expliquées par le football. C'est vraiment ce que je faisais moi en tant que prof. Et voilà, et ça s'enchaîne. Je deviens chroniqueur à l'Obs parce qu'après j'évolue. Ce foot, c'était un blog, donc c'était pas rémunéré. Là, il y a l'Obs qui vient de me chercher et qui m'engage comme chroniqueur. Sur Internet.
Ouais, et après tu fais Slate aussi.
Et après je fais Slate, et après c'est pareil, j'évolue vers Slate. Ça continue, ça monte. Hein,
là maintenant c'est
mon crescendo.
C'est RMC, ouais.
C'est RMC. Et je sais pas si tu voulais en parler ou pas, mais moi je tiens quand même à le préciser parce que beaucoup de gens m'en parlent. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Pascal Pro.
Ah
voilà.
parce que. Je voulais en parler. Voilà. Vraiment, je voulais en parler.
Le truc qui a tout fait exploser.
Parce que moi je voulais. Enfin, c'était ton dernier bouquin, c'est ça? Moi, je t'avais entendu, je sais plus dans quelle émission où tu. Je crois que c'est dans l'After.
Ouais.
Je crois que c'est dans l'After.
Très bien dans l'After.
T'étais pas avec Lucie Bacon dans...
Si.
Bah voilà, c'est ma rédaction sur un autre média.
Ouais.
Donc je me disais que je t'avais. Voilà, c'est là. Et ça s'est très bien passé.
Ouais.
Et c'était très cool. Et moi, je voulais parler justement du fond un peu de ce bouquin.
Ouais.
Et en arriver à ça, Pascal Pro. Ou de mémoire, en gros, il te traite de gauchiste.
De gauchiste.
C'est ça.
Parce oui, il dit que j'y connais rien, de gauchiste. J'y connais.
Pourquoi tu dis ça déjà? C'est parce que tu défendais. Je sais plus ce que tu dis.
Bah en gros, dans le bouquin Le foot va-t-il exploser, que j'ai coécrit avec Richard Bouygues, qui est, ça voilà, forcément, c'est un truc de gauchiste. Hein, Richard Bouygues est le directeur général de politique du PS. En gros, c'est le numéro 3 du PS.
Ouais.
Donc voilà, c'est le mec qui s'occupe de tout ce qui. Enfin, il coordonne le management administratif du PS. Il est élu du 12e. Voilà, c'est un professionnel de la politique. Et je l'ai coécrit avec lui, un bouquin. Effectivement, de gauche. Moi, je l'assume totalement. Un bouquin qui milite, qui soutient une volonté de réguler le système économique du football, de lutter contre les inégalités, de lutter contre les défaillances, de lutter contre la précarisation du modèle, de lutter contre les risques d'éclatement de bulles. Quand on voit les écarts de rémunération entre Neymar, Mbappé et tous les autres, voilà, il y a une bulle footballistique qui grossit. Et nous, on s'inquiète, parce qu'on le dit dans le bouquin en plus, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure. On n'est pas cette caricature que certains ont pu avoir en disant ils annoncent que le foot va-t-il exploser. Non, ils annoncent que le foot va exploser. Nous, ce qu'on dit très bien dès l'introduction, c'est il se peut qu'il explose. On ne veut pas qu'il explose parce qu'on aime ce sport, notre sport chéri. Donc, plutôt que dire pour l'instant ça marche, on ne fait rien parce que ça marche, au risque que plus tard on soit malade et ça explose, on préfère finalement un peu technique chinoise de se prémunir contre les maladies, on préfère tout de suite le réguler pour éviter à ce qu'il n'explose s'il devait exploser d'ici quelques années. Et en gros, voilà, partant de cette considération, il y a eu beaucoup de gens. Laurent Blanc, par exemple, à qui j'ai présenté le bouquin, Laurent Blanc m'a aussi taxé. Alors lui, il n'a pas lu le bouquin parce que je lui donne le bouquin, je lui offre, et il fait, il voit, le foot va-t-il exploser? Ah mais voilà, encore un bouquin qui critique les stars des footballeurs et compagnie. Mais non, on est là vraiment pour protéger ce sport.
En plus, il me semble que dans... ce que tu disais sur l'After, c'est que tu disais très bien qu'il y a beaucoup de footballeurs qui t'as le haut du panier, Neymar, Mbappé, Cavani, tout ça, qui gagnent très bien leur vie, mais l'immense majorité, les carrières sont très courtes, voilà quoi.
Vraiment, au-delà de la Ligue 1, un chiffre qui moi m'avait choqué quand je l'avais appris, c'est une enquête de la FIFPro, qui est le syndicat international des joueurs de foot. Et d'après la FIFPro, 40% des footballeurs sur Terre gagnent moins de 800 euros par mois. 800 euros par mois. On en est là aujourd'hui. Là, on est très loin des footballeurs grassement payés, qui existent. Hein, c'est le marché qui veut ça. Les Messi, les Mbappé, les Neymar, les Cavani et compagnie sont très bien rémunérés. C'est indéniable. Mais il y a aussi une très forte majorité qui vivent dans une précarité continue. Ce n'est pas les 800 euros par mois. On va me dire, voilà, c'est 10 000, 15 000, 20 000 euros. Le salaire moyen en Ligue 1, c'est 46 000 euros par mois. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Sauf que c'est une moyenne. Une moyenne dans laquelle j'intègre les rémunérations des joueurs parisiens. Donc il y a aussi des joueurs en Ligue 1 qui gagnent 2 000, 3 000 euros par mois. Des joueurs qui n'ont pas fait d'études. Des joueurs qui ont des carrières courtes.
Très courtes. C'est quoi la moyenne d'une...
Entre 4 et 6 ans.
Effectivement, c'est très très court. Ouais.
C'est très court.
Ouais.
D'après le syndicat, d'après un syndicat anglais, ils estiment que jusqu'à 50% des footballeurs en Angleterre sont ruinés 5 ans après leur retraite. Sont ruinés. Donc on est, voilà, il y a des footballeurs qui sont très bien payés, c'est indéniable. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, ce qu'on dit, c'est pas, voilà, on n'est pas dans la caricature marxiste, léniniste, soviétique de vouloir imposer l'égalitarisme. On se dit qu'on veut simplement réguler le système et éviter les défaillances. Maintenir un marché, maintenir une concurrence libre et non faussée, tout en corrigeant les défaillances. Et là-dessus, si je veux faire la théorie économique, on se place véritablement dans une logique keynésienne. On admet la véracité, l'importance, la primauté du marché, mais on a conscience que ce marché footballistique crée des défaillances et qu'il faut les corriger. Mais ce n'est pas la caricature gauchiste,
ouais.
Ce qu'ensuite a décrié ce fameux Pascal.
Mais moi qui ne suis pas un grand connaisseur d'économie, enfin, je n'y connais pas grand-chose, c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi, ou même chez nous, on a Étienne Tabac qui vulgarise l'économie dans son podcast Splash. Ce que tu dis là sur mettre un peu plus d'égalité tout en respectant le marché, est-ce que ça ne ressemble pas à ce qui se fait en NBA?
Si.
Avec les contrats max, donc c'est pas tout le monde qui peut avoir un contrat max.
Bien sûr.
Enfin, même aux États-Unis, en fait, je crois que c'est tout le sport américain qui est comme ça.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a toujours en tête, nous, Européens, ah oui, l'Europe, c'est la France, c'est l'État tout-puissant, c'est les impôts, c'est l'interventionnisme public. Les Américains, c'est le libéralisme. Les Américains, c'est voilà, la liberté absolue, on se fait tout seul, il n'y a pas d'État, pas d'impôts, c'est génial, le libéralisme. Le sport américain, c'est le sport le plus régulé du monde, limite un sport socialiste.
Ouais.
C'est vraiment ça. L'Europe, ça a été dérégulé. Depuis l'arrêt Bosman, le sport européen, le football européen a été totalement dérégulé. Et maintenant, c'est liberté absolue entre voilà, libre circulation des facteurs de production, les joueurs partent, viennent, repartent, partent, reviennent. C'est vraiment une grande liberté. L'explosion des droits TV, absence de marqueurs économiques et marqueurs sociaux. Alors que les Américains, depuis toujours, c'est on régule. On régule parce qu'on se dit que si on laisse faire... En gros, les Américains ont considéré ce qui est assez finalement bien de leur part, c'est que contrairement à l'Europe, les Américains avaient plusieurs sports en concurrence entre eux. Les Américains, ils ont le basket, le foot US, le hockey, le baseball, le soccer maintenant, et ils sont en concurrence directe. C'est-à-dire que l'Américain de base, il est autant passionné par le foot US que par le basket, que par le hockey, que par le baseball. Et donc les sports se font concurrence. Et donc les Américains se sont dit comment faire pour garantir un positionnement de marché, une part de marché dans ce monde concurrentiel sportif pour faire en sorte d'attirer le téléspectateur, d'attirer le supporter, d'attirer le spectateur dans une enceinte de foot US alors qu'il pourrait aller voir du baseball, qu'il pourrait aller voir du hockey, du soccer ou autre chose. Et bien, en garantissant le challenge, en garantissant l'intensité compétitive, faire en sorte qu'on ait ce que eux appellent la randomisation du champion. La randomisation du champion, c'est n'importe qui peut battre n'importe qui. Et n'importe quel supporter peut un jour dans sa vie espérer voir son équipe remporter le titre. Aujourd'hui en Europe, aujourd'hui en France encore plus, à travers cette libéralisation, on a démultiplié les inégalités et on a aujourd'hui une caste de clubs de foot qui ont la certitude de remporter les titres nationaux et les titres continentaux. Il n'y a plus cette intensité compétitive. Il n'y a plus cette randomisation du champion. Les Américains, ils ont régulé pour garantir une équité sportive. En disant parce que ce marché concurrentiel pourrait provoquer des chutes et des faillites de clubs, pourrait désinciter les investisseurs à venir, parce qu'ils mettent en avant une chose très intéressante. La régulation, contrairement à ce que pourraient dire des libéraux, la régulation attire l'investisseur. La régulation attire la croissance. La régulation rassure l'investisseur et ce dernier est incité à venir placer de l'argent dans un club ou dans un championnat. Dans un monde libéralisé, oui, effectivement, ça attire de s'associer au PSG ou au Real Madrid. Mais quel investisseur digne de ce nom serait intéressé par s'associer dans un club de Ligue 1 qui n'aurait pas la certitude de rester en Ligue 1, qui n'aurait pas la certitude de pouvoir se maintenir au top 10 ou au top 15, qui pourrait descendre, monter. Finalement, ce risque d'aléa, d'incertitude à la fois économique et sportive, fait fuir l'investisseur. Donc, tout le paradoxe, je veux dire, sémantique ou en tout cas idéologique entre les tenants du libéralisme et tenants du régulationnisme, c'est que la régulation, à mon sens, alors on me dira que c'est pas objectif, c'est forcément de l'idéologie politique, mais à mon sens, la régulation soutient la croissance économique, soutient l'investissement, soutient finalement le développement sportif et économique. Et on le voit très bien avec le modèle américain qui fonctionne. Prends un exemple, la NBA, la saison dernière, 7 milliards de dollars de bénéfices. 7 milliards de dollars. Et c'est un système qui est régulé avec salary cap, draft, redistribution égalitaire des droits TV, le premier autant que le dernier, luxury tax, play-off, enfin vraiment des trucs assez dingues, assez importants, qui moi, en tant qu'économiste, mais aussi en tant que fan de foot, j'aimerais, en tout cas pas tout, la ligue fermée, je suis pas totalement pour, mais j'aimerais imposer à échelle du football français et européen.
Mais ce que tu dis, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que l'économie dirige le sport en général, mais qu'en Amérique, ils ont eu cette vision de dire « Ok, c'est l'économie qui dirige, mais on va faire en sorte qu'elle ne dessert pas justement le spectacle et le côté aléatoire du sport. » Alors qu'en Europe, voilà, on retrouve toujours le Real, le Barça, le Bayern, Liverpool quand ils sont à peu près bien, mais ils ont toujours une manne financière assez importante. C'est toujours les mêmes clubs qu'on voit. Et je comprends aussi ce postulat de dire « Le foot peut-il exploser ?» En fait, ça vient de là.
C'est en fait, le risque, si tu veux, quand on met en avant cette... c'est pas une prophétie, encore une fois, c'est une peur qu'on a. Mais comme tu l'as dit, si tu veux, aujourd'hui, l'économie du foot européen est basée essentiellement sur les droits TV. L'immense majorité des clubs de foot européens vivent grâce aux droits TV. C'est fini l'époque de l'économie de la billetterie ou des supporters. Aujourd'hui, un club tient grâce aux recettes droits TV.
Mais est-ce que c'est mal, justement, qu'il n'y ait qu'une seule grosse source de recettes ? C'est ça que tu veux dire ?
C'est extrêmement inquiétant, parce que, si tu veux, que va-t-il se passer si, à la fois, un, il y a une démultiplication des chaînes ? Moi, je travaille pour RMC, donc je ne sais pas comment commencer à dire « Non, ce n'est pas bien qu'il y ait ça ». Mais si, en gros, je m'inquiète qu'à la fois, il faille s'abonner à RMC, à Beansport, à Canal+, bientôt à Mediapro. Donc, le téléspectateur moyen va devoir débourser beaucoup d'argent pour pouvoir regarder du football, et que dans le même temps, l'intensité compétitive, le challenge, l'intérêt sportif à regarder une compétition chute. Aujourd'hui, par exemple, quel est l'intérêt de regarder la Ligue 1 française ?
La Ligue 1, maintenant, c'est, avec Mediapro, c'est 1 milliard, je crois. C'est
1 milliard, 153 millions d'euros. Moi, je m'inquiète que Mediapro se rende compte qu'une Ligue 1, eux, vont payer 800 millions d'euros et le reste sera payé par Beansport.
300 millions.
Mediapro prend 8 rencontres, 8 matchs par journée. Et Beansport en prend 2, les grandes affiches du vendredi et dimanche soir. Et Mediapro prend le reste. Mediapro, à 25 euros par mois en 2020, aura 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2. Je me pose la question, parce que Beansport, Canal+, RMC, qui ne sont pas forcément dans leurs frais, ont le foot, mais ont aussi beaucoup d'autres choses. Canal a le cinéma, a le rugby, Beansport a beaucoup d'autres choses que le foot français, les championnats étrangers, d'autres sports comme le tennis, le hand et autres. RMC idem, a le basket, a des championnats étrangers. Des sports de combat, la boxe, la MMA, la free fight, donc il y a d'autres choses. La Mediapro annonce, voilà, on payera 800 millions d'euros et on n'a que le football français, Ligue 1, Ligue 2. Franchement, je me pose la question, est-ce qu'on a suffisamment, il faudrait techniquement qu'il y ait 6 millions de Français qui acceptent de payer 25 euros par mois pour n'avoir que de la Ligue 1 française pour que la chaîne rentre dans ses frais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me pose la question, est-ce que les Français vont se dire, j'accepte de payer 25 euros pour voir, je vais être très...
T'inquiète, je dois venir, mais il n'y a pas de souci.
Pour voir Reims...
Reims-Dijon.
Voilà. Et que ça, parce qu'il n'y aura rien d'autre. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Après, peut-être qu'ils vont arriver en disant, ah non, on prend ça. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et pour une Ligue 1 qui, avec le PSG, n'a plus vraiment d'intérêt ou d'intensité sportive, voilà, il n'y a plus de suspense, plus de challenge, est-ce qu'ils vont trouver 6 millions de personnes ? Parce que le risque, c'est qu'on a les clubs dépendants de ces droits TV. donc à ces chaînes de télévision. Mais qu'est-ce qui se passe si les chaînes de télé font faillite? Qu'est-ce qui se passe si les chaînes de télévision se disent, bah, en fait, c'est pas rentable?
Bah, ça me fait penser, il y a un article que tu as écrit dans Slide, justement, en disant qu'il y a peut-être une bulle spéculative, ça peut exploser, justement, et ça m'a fait penser aux droits de la Coupe de la Ligue, qui n'ont pas trouvé preneur.
Ouais.
Le cas où une chaîne dit, bah, en fait, c'est une compétition qui est ennuyante, qui attire personne, donc moi, j'ai pas envie de payer. Et si demain, la Ligue 1, Paris, gagne les 10 prochains titres, je pense que ça va ennuyer beaucoup de gens. Et ils vont dire, bah, en fait, je ne mets pas 800 millions, 900 millions d'euros pour une compétition qui est déjà jouée. Et en fait, ça peut... Enfin, je comprends tout ce truc de ça peut tuer. C'est...
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour donner de l'intérêt déjà, et plus élément, dépendre de ça, ouais.
Premier élément, moi, qui me semble assez évident, si je puis dire, c'est modifier le système de redistribution des droits TV. Aujourd'hui, en France, on a un écart de 1 à 3,4 entre le premier et le dernier. Je parle pas du modèle américain, notamment de la NBA, où là, il y a un partage totalement égalitaire qu'on termine premier ou dernier du championnat. Là, en France, le premier a 3,4 fois plus que le dernier. En Angleterre, où on a, allez, je mets de côté Manchester United, mais on a 6 gros clubs en Angleterre. On a un challenge, on a une intensité. En Angleterre, le partage est de 1,4. C'est-à-dire que le premier à 1,4 fois plus que le dernier. Il y a un partage quasi égalitaire des droits TV, ce qui permet à ce que le dernier de Première Ligue gagne deux fois plus que le premier de France. Donc ce qui permet d'assurer, de garantir des recettes économiques, donc des investissements sportifs, donc une amélioration sportive de tous les clubs et un intérêt sportif, un challenge. Donc, premier élément, moi, je milite pour modifier le système de redistribution et se caler sur le modèle anglais et favoriser l'égalitarisme, en tout cas de 1,4 comme en Angleterre. Ce qui, moi, me chagrine, c'est que la plupart des dirigeants français, notamment du syndicat Première Ligue, qui représentent les gros clubs français, qui est dirigé par Olas et Nasser Al-Khelaïfi, donc les gros clubs français, sont totalement contre. Et eux, à l'inverse, prônent plutôt une vision, je dirais, modèle portugais ou espagnol, où en gros, on mise sur la récompense, si t'es premier, c'est grâce à toi. Donc c'est normal que tu aies plus. L'égalitarisme, c'est tout le monde à armes égales. Et là, c'est plus de l'équité, si je puis dire, c'est l'équité inversée. C'est t'as été premier, t'as plus que tous les autres. Et le syndicat Première Ligue, lui, a milité pour que le partage soit de 1 à 4. 1 à 4. Ah oui, donc renforcer encore plus les différences. Donc moi, je serais pour qu'on fasse du 1 à 2, voire du 1,5, 1,4 comme en Angleterre. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, est-ce que, c'est un doux rêve, après, est-ce qu'il y aura des contraintes juridiques continentales, européennes et autres, mais imposer un salary cap européen permettrait de réduire finalement les différences, réduire les écarts. Comme je suis finalement défenseur du marché, je ne militerai pas pour un salary cap, ce qu'on appelle un salary cap dur, donc une barrière qui interdirait les clubs de dépasser une masse salariale précise, mais un salary cap souple, comme en NBA.
Avec une taxe, si on dépasse...
Exactement, okay. La luxury tax. C'est qu'en gros, dès que tu dépasses ce salary cap, tu payes une luxury tax au prorata de la différence, et ces gains viennent ensuite être redistribués aux clubs qui ont respecté les règles. Donc en gros, ça veut dire que les riches la dépassent, mais comme ils sont riches, ils peuvent la dépasser. Et comme ils la dépassent, ils sont plus riches que les autres, donc on prend leur argent pour le donner à ceux qui n'ont pas assez d'argent. Donc il y a un retour à l'envoyeur, il y a un rééquilibrage des forces. Donc ces éléments-là qui permettraient ensuite de pouvoir accorder plus de moyens aux petits clubs, d'améliorer l'intensité sportive, la compétitivité, l'équité sportive, le challenge, et donc le suspense, et donc l'intérêt pour le public de regarder une compétition. Mais voilà... passe par des éléments, je pense, beaucoup de pédagogie, parce qu'encore aujourd'hui, dès que tu commences à parler de régulation de football, on l'a vu avec Pascal Praud, tu passes pour un gauchiste, alors que je n'ai pas le sentiment d'être la caricature du gauchiste. Mais ce qui est très intéressant, et c'est l'impression que j'ai eue justement quand tu en parlais, quand j'avais fait l'after, c'est que quand tu en parles, quand tu vas vraiment dans le fond du sujet, tu prends le temps de faire de la pédagogie, et d'expliquer les éléments, les propositions, les arguments, en restant vraiment humble et neutre et pédagogue, les gens comprennent, les gens l'acceptent. Les gens disent, ah mais ouais, finalement, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'on reste, et ça, c'est au-delà du cadre footballistique, hein, les Français, en tout cas les gens, restent bernés ou cerclés de vieilles habitudes, de raccourcis tenaces. Et que tu leur dis ça ou ça, ils vont tout de suite l'interpréter à leur sauce. Tu parles de régulation, boum, c'est gauchiste. Tu parles de ça, boum, c'est ça, c'est ma première analyse. C'est un peu la même caricature qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, des gens qui ont commenté sans lire l'article, qui vont lire le titre de l'article.
Comme malheureusement trop souvent. Hein.
Comme énormément souvent. Des gens qui vont sur Twitter ou ailleurs vont commenter l'article qu'ils n'ont même pas lu. Simplement, et là, je ne sais pas si tu as vu, là on ne parle pas de foot, mais il y a un site qui a fait ça sur les gilets jaunes. Et qui a écrit un article. Le titre, c'est Jacqueline, je ne sais pas qui, là, la personne des gilets jaunes, embauchée comme attachée parlementaire au groupe En Marche. Il y a plein de commentaires de gens qui se mettent à l'insulter, à la critiquer. Tu cliques sur l'article, tu lis l'article, c'est écrit dedans, on se fout de votre gueule. Et personne n'a eu le réflexe de cliquer sur l'article. C'est la même chose en fait ici pour le cas du football. C'est que, et je te citais tout à l'heure Laurent Blanc. Laurent Blanc qui est très gentil, très sympathique. Le mec, je lui offre le bouquin. La première chose qu'il se dit, c'est encore un gauchiste qui va critiquer la rémunération des footballeurs. Absolument pas. Quand on parle de régulation, on est là pour protéger notre sport chéri, le football. Et il faut prendre conscience qu'il y a des problématiques, qu'il y a de la précarité, qu'il y a vraiment des... J'ai même de la misère sociale chez certains footballeurs. Et que vouloir réguler, c'est pas imposer du stalinisme, c'est pas imposer du marxisme-léninisme. Vouloir réguler, c'est simplement faire preuve de bon sens, et dans une logique, je dirais, très keynésienne, de vouloir corriger les défaillances créé par un marché, marché qu'on protège.
Et dans les choses qui vont bien, quel est le club aujourd'hui en Europe qui est pour toi le mieux géré économiquement parlant? Lequel est un modèle d'économie, on va dire?
Les clubs allemands sont très bien gérés, ça c'est indéniable. Ils sont connus pour ça d'ailleurs. Les clubs allemands sont connus et réputés pour leur gestion assez soutenue, leur comptabilité. Il y a une très faible dépendance, on en parlait tout à l'heure, de la dépendance aux droits TV. En Angleterre, en France, on a entre 50 et 60% de budget basé sur les droits TV. En Allemagne, on est à 30%. Donc, c'est vraiment...
Et les 70% restants, c'est dû à quoi alors?
C'est la billetterie, c'est les recettes sponsoring, c'est les recettes marketing. L'Allemagne, c'est particulier parce que comme on a ce système des Landers, en fait, le club devient l'équipe régionale. L'équipe à défendre à échelon régional. Et toutes les entreprises vont vouloir s'associer à ce club pour soutenir cette image de la région qu'on va vouloir protéger. Les clubs allemands ont énormément de recettes marketing, merchandising, sponsoring via leur sponsoring régional. Et donc là-dessus, ça marche. L'autre élément au niveau de la billetterie, c'est que les recettes match day en Allemagne sont extrêmement importantes par rapport à la France, par exemple.
Les stades sont pleins en Allemagne aussi.
Les stades sont pleins. Il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études là-dessus, pas moi, mais d'autres ont fait des études là-dessus, et on mesurait la consommation moyenne d'un supporter lambda en France et en Allemagne, et en Angleterre, en Italie et ailleurs. En France, en moyenne, le supporter, le spectateur, le visiteur du stade dépense 1 euro. Dans le stade. C'est une moyenne. Donc, des gens vont dépenser 15, 20, et d'autres vont dépenser 0, et en moyenne, ça fait 1 euro. Donc, il y a 1 euro de dépensé en moyenne par les supporters dans les stades de football français.
C'est parce que la bouffe est dégueu aussi.
Elle est chère, ouais. Il y a la queue, c'est pas bien. On connaît tout ça. C'est pas excitant ou attirant d'aller à la buvette du stade quand on est en France. En Allemagne, la consommation moyenne, encore une fois, moyenne, c'est 15 euros. 15 euros. Donc, rien que ça, déjà, des stades pleins où la consommation moyenne, c'est 15 euros. Forcément, tes recettes de billetterie match day explosent et permettent de maintenir à flot ton budget sans dépendance des droits TV.
Et là, on arrive à la fin de cet épisode. Et Pierre, merci beaucoup.
Merci à toi.
D'être passé malgré le froid, malgré...
Ouais, à la fin, je commence à fatiguer.
Ouais, ouais. Et du coup, juste, on peut te lire en bouquin ou on peut aussi t'écouter, te voir maintenant sur RMC, c'est ça?
Sur RMC. Alors, sur RMC Sport, pour ceux qui l'ont.
Ouais.
j'ai ma chronique hebdomadaire sur Footissime. Donc, Rondo Écho, non facilement trouvé. Donc sur Footissime, le lundi de 20h45 à 22h45 avec Eric Dimeco, Rio Mavuba et Jérôme Roten. sur RMC Sport 1. Et sinon, je suis ce qu'on appelle un chroniqueur volant, donc je ne peux pas déjà vous dire où est-ce que je passe.
Okay,
te dire où
marche.
Est-ce que je passe. Parfois Breaking Sport, parfois L'After, parfois...
Ça va, tu kiffes
Franchement, c'est cool.
Être avec Daniel Riolo, Gilbert Bribois, tout ça.
Je ne vois pas souvent, moi, je sais plus... Tu sais, L'After, finalement, depuis que je suis là, je l'ai fait que 3 fois. Hein.
Okay.
Daniel, s'il est cool, il est sympa. C'est pas avec eux que je... C'est plus avec...
T'es plus en télé, quoi, c'est ça?
Ouais, okay. Mais même si maintenant, même L'After, c'est diffusé à la télé, mais le soir, comme ça, je suis moins avec eux, mais ils sont cool. Franchement, il y a une super ambiance.
Bah top. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Bon rétablissement.
Ouais.
Et à très bientôt. À très bientôt.
Merci à toi. Merci à toi.
Ciao.
Salut.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. À la prise de son, Ashley Tola. Et le tout est monté et mixé par Laurie Galigani. Merci à Pierre Rondeau d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous souhaitez réagir à ce qui s'est dit, c'est simple, ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et qui dit nouvelle année dit aussi bonne résolution. Alors pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast histoire de bien commencer l'année. Et puis pour finir, je vous souhaite à tous une excellente année 2019 avec plein de super matchs, de beaux gestes et... on l'espère, une victoire de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao !